Et c'est le journal de Laurence Paracuelos, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. France-Algérie, quand le passé ne passe pas, décidément la querelle s'envenime entre Paris et Alger. Le président algérien répond à Emmanuel Macron pour la première fois, l'accuse de falsifier l'histoire. Et la brouille n'est pas prête de s'arrêter sur fond de campagne électorale, c'est ce qu'on va voir dans un instant. À la une aussi, ce que disent et ne disent pas les sondages qui pullulent en ce moment. L'élection est encore loin, leur fiabilité est discutable, pourtant ils alimentent le débat. Est-ce bien raisonnable? Des dizaines de milliers de Polonais dans les rues hier soir qui manifestaient pour défendre leur appartenance menacée à l'Union européenne. Ça, ce sera l'un des sujets du grand entretien, Nicolas.
Avec le commissaire européen, donc, au marché intérieur, Thierry Breton, à notre micro avec Léa. Beaucoup de sujets à aborder avec lui. Entrez dans la discussion, amis auditeurs. 01 45 24 7000.
Et ce matin, le destin d'un homme innocenté du meurtre pour lequel il avait été condamné, Marc Machin, de nouveau devant les assises, accusé de viol. Les méthodes musclées du nouveau préfet de l'Hérault qui veut nettoyer Montpellier. Les fruits et les légumes bientôt plus vendus sous plastique. Un titre de champion pour les Bleus du foot, il remporte la Ligue des Nations. Et les 20 ans d'un ogre peu appétissant, le festival Lumière a fêté l'anniversaire de Shrek. France Inter. C'était la semaine dernière sur France Inter. Emmanuel Macron appelait à l'apaisement entre la France et l'Algérie. Alors qu'il n'y a plus d'ambassadeur d'Algérie à Paris, il a été rappelé dans son pays et qu'Alger a interdit aux avions militaires français de survoler son territoire. Tout est parti de propos rapportés du président français déplorant la rente mémorielle qu'entretiendrait le pouvoir algérien. Et 15 jours plus tard, il n'y a pas d'apaisement, bien au contraire. Bonjour Christian Chesneau.
Bonjour.
Le président algérien a pour la première fois réagi publiquement hier soir, et ses mots sont extrêmement durs.
Oui, dans cette guerre des mots, Abdelmadjid Tebboune a répondu de manière très cinglante à Emmanuel Macron. La France doit oublier que l'Algérie a été une colonie française, a martelé le président algérien lors d'un point de presse. Selon lui, l'histoire ne peut pas être falsifiée. Actuellement, nous sommes agressés dans notre chair, notre histoire, dans nos martyrs, a-t-il ajouté. Le président Tebboune a aussi fait savoir que le retour de son ambassadeur à Paris était conditionné au respect de l'Algérie et le respect total de l'État algérien par la France.
On le voit, ça ne s'arrange pas. Les relations entre Emmanuel Macron et l'Algérie avaient pourtant bien commencé, Christian.
Oui, le président français a voulu faire de la réconciliation avec l'Algérie un marqueur de son quinquennat. Avant même son élection, pendant la campagne, il avait qualifié la colonisation française de crime contre l'humanité. Propos qu'Emmanuel Macron n'a jamais réitéré, mais il a voulu avancer sur le dossier mémoriel en prenant de multiples initiatives jusqu'au rapport Stora qui préconise un apaisement des mémoires par des gestes symboliques. Entre Emmanuel Macron et Abdelmadjid Tebboune, le courant est bien passé, les deux hommes s'apprécient, mais aujourd'hui, à l'Élysée, on a le sentiment d'avoir beaucoup donné et peu reçu en échange. La récente décision de réduire de 50% les visas délivrés aux Algériens symbolise sans doute cette frustration d'Emmanuel Macron face à l'immobilisme de l'État algérien. Autant dire que cette crise de nerfs entre Paris et Alger va durer, d'autant qu'une longue séquence mémorielle a déjà démarré et s'achèvera avec la commémoration des accords d'Évian en mars prochain, puis celle de l'indépendance de l'Algérie en juillet.
Christian Chesneau, merci. Le dossier algérien sur fond de pré-campagne présidentielle en France. 6 à 7 millions de Français sont concernés par l'histoire de l'Algérie et par ses différentes mémoires, selon le rapport de Benjamin Stora. Et voilà qui nous amène aux électeurs de la présidentielle interrogés chaque jour ou presque par les différents instituts de sondage. Il y a eu 13 sondages en septembre, 5 pour la seule première semaine d'octobre. À 6 mois de l'élection, il semble monopoliser le débat jusqu'à annoncer un deuxième tour Macron-Zemmour. Pourtant, les sondeurs se sont souvent trompés, souvenons-nous du Brexit et de Donald Trump. Leurs résultats sont donc à prendre avec de grosses pincettes, Yael Gauz, d'autant que les précautions d'usage ne sont souvent pas mentionnées dans leurs enquêtes.
Depuis 1995, jamais aucun institut n'a donné, sitôt à l'avance, l'ordre d'arrivée du premier tour. Et pour cause, il y a trop d'incertitudes, des panels plus ou moins fiables et des intentions de vote calculées seulement sur la base de ceux qui sont certains d'aller voter. Et c'est justement ce manque de transparence sur les marges d'erreur qui scandalise le sénateur socialiste Jean-Pierre Sueur, auteur d'une loi en 2016 pour mieux encadrer la sincérité des sondages.
Une personne qui est à 15%, c'est entre 12,5 et 17,5%. temps. En gros, si le sondage a été bien fait. Or, cela, on doit le dire. Il se trouve que la loi est bafouée tous les jours. Car la loi qui a été votée dit que tout média doit indiquer les marges d'erreur. Il y a une folie des sondages.
Avec des conséquences en chaîne jusqu'aux banques qui les regardent, ces sondages, avant de prêter à un candidat. Depuis 1977, les sondages sont régulés par une commission composée de 6 hauts magistrats et 3 experts qui peuvent constater et signaler les abus, mais la commission n'a encore jamais saisi le procureur. En interne, le débat est en train de monter. La commission est-elle trop tolérante? Dans son dernier rapport, page 8, la présidente Marie-Ève Aubin valide même les sondages de second tour qui ne tiennent pas compte d'un premier tour. Au motif, je cite, que des candidats qui ne sont pas donnés d'avance au second peuvent en pratique y arriver. Question déontologie, les sondeurs n'ont pas trop de soucis à se faire.
Il est 8h05 et voilà Florence, une mine de sujets pour la campagne.
La France à l'horizon 2030, c'est le plan d'investissement que doit dévoiler le chef de l'État demain. Une façon de se projeter aussi sur le quinquennat qui vient. On y trouvera un volet énergie qu'il faut décarboner, un volet formation pour les salariés vers cette transition énergétique et un volet innovation. On parle là de technologie, d'aéronautique, d'agroalimentaire et de santé. Ce sont les biotech dont l'ARN messager des vaccins en est l'exemple parfait, Laurent Kramer. Et la France, pour l'instant, n'a pas brillé de ce côté-là.
Les États-Unis investissent aujourd'hui 20 fois plus que la France dans les biotechnologies. Demain, la Chine sera également sur les rangs pour acheter des initiatives et des réussites françaises. Investir massivement dans ces technologies de rupture, dans la santé, est donc nécessaire à condition de ne pas oublier la recherche fondamentale, souligne Philippe Pouletti à la tête d'Abivax et d'un fonds d'investissement dans les biotechnologies.
C'est une bonne chose que le gouvernement français s'intéresse aux ARN messagers et à la biotech en général. Mais il faut faire attention de ne pas seulement miser sur les batailles d'hier. Il est très important de mettre beaucoup plus de moyens sur l'innovation radicale en biotechnologie de demain. Celle qu'on ne connaît pas aujourd'hui, c'est celle qui donnera des nouveaux traitements, des nouveaux vaccins. C'est de la recherche scientifique de très haut niveau qui, à 95%, se passe dans les laboratoires académiques, universitaires, les meilleures universités mondiales. Il faut multiplier par 5 le budget de l'Agence nationale de la recherche, passer de 1 à 5 milliards, et c'est ça qui financera les très grandes innovations radicales de demain.
Il y a urgence car ces start-up françaises de biotechnologie qui développeront ensuite ces brevets issus de la recherche fondamentale sont aujourd'hui sous-financées.
Et puisqu'on parle de finances et de santé, il est un domaine sur lequel l'État arrête les frais. Ce sont les tests Covid qui ne sont plus, seront plus remboursés à partir de vendredi pour les non-vaccinés, sauf s'ils ont une prescription ou s'ils sont considérés comme cas contact par l'assurance maladie. Yann Gallic, on s'y prépare en pharmacie des deux côtés du comptoir.
Dans cette grande pharmacie près de la gare Saint-Lazare, les clients qui viennent faire un test antigénique sont désormais deux fois moins nombreux. Cet été, il y en avait en moyenne une 60 par jour. Aujourd'hui, on est passé à une 30 de tests quotidiens, explique Éric Millon, le responsable de l'officine, également secrétaire général de l'Union nationale des pharmacies de France.
On a pas mal de vaccinés qui vont le faire s'ils ont besoin d'aller voir des personnes âgées ou fragiles, qui vont le faire en préventif. On a quelques personnes qui en ont sûrement besoin dans le cadre d'un voyage ou d'un déplacement, en plus parfois du passeport vaccinal. Et on a aussi quelques personnes qui ne sont peut-être pas vaccinées et qui le font pour pouvoir avoir un pass sanitaire. Mais quand on interroge un peu plus, on se rend compte qu'il y a quand même pas mal de gens déjà vaccinés qui font quand même des tests.
Larissa, 23 ans, est venue se faire tester car elle n'est pas encore vaccinée.
Je vais sortir au cinéma, resto. À chaque fois, quand je veux vraiment sortir, il faut toujours un test ou un pass sanitaire, ça devient contraignant.
Vous savez que ça va devenir payant bientôt ?
Oui, tout à fait. Je songe peut-être à me faire vacciner prochainement, mais ce n'est pas encore définitif comme décision.
À partir de vendredi, celles et ceux qui ne sont pas vaccinés et qui n'ont pas d'ordonnance devront payer 25 € pour un simple test antigénique en pharmacie.
À l'autre bout du monde, Sydney se déconfine en Australie après 100 jours de fermeture des commerces non essentiels. Cafés, restaurants et salles de sport ont rouvert leurs portes ce matin, mais seulement aux personnes entièrement vaccinées. Ils vendaient des informations secrètes sur les sous-marins nucléaires américains. Un ingénieur de la marine et sa femme arrêtés aux États-Unis États-Unis ce week-end. Ils sont américains et pensaient vendre leurs informations à une puissance étrangère depuis un an. Sauf que leur contact était en réalité un agent du FBI sous couverture.
France Inter, il est 8h09. La suite du journal, Florence Paracuellos.
Innocenté après 6 ans de prison, un homme de nouveau devant une cour d'assises aujourd'hui. Il s'appelle Marc Machin, condamné à tort pour un meurtre qu'il n'avait pas commis, libéré en 2008. Le voilà accusé d'avoir commis un viol 10 ans plus tard. Il comparaît à Paris, Mathilde Vinceneux, sans jamais avoir pris le chemin de la réinsertion.
Le poing levé à sa sortie de prison en 2008, Marc Machin est pris dans un tourbillon médiatique. Il sort un livre, mais très vite, il est rattrapé par la justice, condamné notamment à 3 ans de prison pour agression sexuelle, 6 mois pour violence. Les plus de 600 000 euros perçus en dommages et intérêts, il les dilapide. Ensuite de luxe en prostituée, en stupéfiant. Il se retrouve au RSA, logé dans un hôtel social, mais préfère dormir dans la rue. Son avocate, Maître Élise Arfi.
Il est devenu célèbre. Il est devenu riche, mais finalement, regardez son parcours de vie, ça n'a pas empêché une chute terrible. Ça aussi, ça doit quand même nous interroger. Aussi sur le suivi, le suivi, que vous soyez coupable ou innocent, quand vous sortez de prison, c'est très dur. Il y a un lien évident entre ce que la prison, ces années de prison pour rien ont pu faire de lui et les faits qui lui sont aujourd'hui reprochés.
À 39 ans, Marc Machin encourt jusqu'à 20 ans de réclusion criminelle pour ce viol où il est soupçonné d'avoir menacé la victime avec un couteau pour obtenir une fellation. Il aurait ensuite pris soin d'effacer les traces du crime avant de lui voler sa carte bleue.
Mathilde Vinceneux, l'audience va durer 4 jours.
En poste depuis le mois de juillet, le nouveau préfet Florence de l'Hérault ne passe pas inaperçu.
C'est un ancien collaborateur de Nicolas Sarkozy, période Karcher. Il dit lui-même vouloir nettoyer la ville de Montpellier. Hugues Moutou, 53 ans, se définit comme le bras armé de l'État. Un préfet d'autorité qui s'est déjà attaqué aux bidonvilles, aux femmes voilées intégralement et qui ne compte pas s'arrêter là. Mathilde Dehimy, au risque de faire grincer des dents à Montpellier.
On l'a surnommé le préfet bulldozer, ce qui ne déplaît pas à Hugues Moutou.
Je suis là pour faire respecter la loi. Ma méthode est brutale, peut-être, mais c'est la loi qui l'est.
Il veut désormais nettoyer Montpellier, comme Nicolas Sarkozy voulait s'occuper des banlieues.
Nous sommes des hommes de Beauvau. Même si nous avons dans notre portefeuille de mission bien d'autres choses encore que la sécurité, un préfet, c'est une sorte de petit premier ministre, puisque je dirige, je coordonne l'ensemble des politiques publiques sur le territoire.
Des propos qui ont provoqué des remous jusque dans la majorité municipale. Coralie Mention, chef de file des Verts.
Propos inacceptables. On n'emploie pas le mot nettoyer quand on parle d'individus.
Le maire socialiste Michael Delafosse reste silencieux, pas son prédécesseur, désormais dans l'opposition, Philippe Sorel, d'Hiver Gauche.
Il est difficile de se fâcher avec le préfet, mais l'important c'est de défendre les habitants de la ville. Quand le préfet va un peu trop loin dans ses prérogatives, c'est le rôle des responsables politiques de le lui dire.
Des mots, le préfet est rapidement passé aux actes et fait expulser 4 bidonvilles alors qu'un travail social en partie financé par l'État était en cours. Sylvie Chanvoux, directrice régionale de la Fondation Abbé Pierre.
Depuis un an, il y a des choses vraiment très engagées. Et là, boum, tout s'arrête. Arrive le nouveau préfet qui, sans crier gare et sans prévenir personne, expulse 2 premiers bidonvilles.
Hugues Moutou, lui, veut aller vite. Un préfet n'est pas là pour 10 ans, dit-il.
Mathilde Dehimy, Carrefour et Auchan, ils discutaient pour s'allier. Eh bien, les discussions s'achèvent à l'instant, viennent de savoir les deux enseignes Carrefour auraient refusé de passer sous le contrôle d'Auchan. Et dans les supermarchés comme ailleurs, 4 pommes sous plastique, c'est bientôt de l'histoire ancienne, interdit à partir de janvier prochain. Un décret va apparaître demain, c'est la loi anti-gaspillage qui veut favoriser le vrac et limiter les emballages des fruits et légumes. Boris Loumagne, même s'il restera des exceptions.
Pour faire simple, sachez qu'en 2022, les enseignes n'auront plus le droit de vendre la grande majorité des fruits et légumes emballés dans du plastique. Courgettes, poivrons, choux-fleurs, pommes, poires, citrons et j'en passe. Qu'ils soient bio ou non, plus de plastique. En revanche, si le produit est fragile, alors l'emballage plastique continuera d'être autorisé le temps de trouver des solutions alternatives. Cela concerne les pêches, les salades, les cerises et la plupart des fruits rouges. Une exemption est aussi prévue pour les lots de fruits et légumes dépassant 1,5 kg. Et enfin, l'interdiction ne concernera pas non plus les produits transformés, épluchés ou coupés. Mais toutes ces exceptions à la règle ne dureront qu'un temps. En 2026, l'ensemble des fruits et légumes seront vendus sans emballage plastique.
Le goût de la victoire, savouré de nouveau par les Bleus du foot hier. Il remporte la Ligue des Nations en battant l'Espagne 2-1. But signé Benzema et Mbappé. De quoi relancer l'équipe de France sur la route du Mondial de l'an prochain, 3 mois après l'élimination de l'Euro en 8e de finale. Enfin, il ne ressemble vraiment à rien. Il est très vilain, très vert et en plus il rote. C'est Shrek, le moins glamour des princes charmants. L'ogre, apparu sur nos écrans il y a 20 ans, dignement fêté hier au Festival Lumière de Lyon, avec projection du premier volet et doubleur en titre, Alain Chabat présent pour l'occasion, Alexis de Meyer.
Vous allez bien les enfants? Vous en avez marre que je sois là? Vous avez envie de voir le film? Alors j'y vais.
Alain Chabat en grande forme sur la scène de la halle Tony Garnier. Et oui, Shrek a 20 ans et presque toutes ses dents.
Les ogres sont comme les oignons.
Ichelin, oui.
Non. Megan est venue en famille.
Le film est sorti, j'avais que 3 ans. Donc j'ai pas eu la chance de le voir au cinéma. C'est vraiment un dessin animé qui ne prend pas les enfants pour des idiots.
Et qu'est-ce que vous avez sur la tête?
Un petit bonnet Shrek hein, que ma mère a commandé. Voilà. Et on a aussi les oreilles de l'âne.
Quelques rangs plus loin, Adrien et Jacques.
Moi j'ai super bien aimé parce que c'est drôle. Surtout le personnage qui m'a fait le plus rire, c'est l'âne.
Les grands enfants y vont aussi. 70 ans, pas de problème, j'y vais. Shrek, je connais depuis des lustres.
Pourtant, quand le studio DreamWorks s'est lancé dans l'aventure pour concurrencer Pixar, c'était un sacré pari, se souvient Alain Chabat, la voix française de Shrek.
Au départ, moi je croyais que c'était vraiment un petit film expérimental presque. Je suis ravi d'être amené à Shrek. Hein. De temps en temps, je vois des parents qui disent « Regarde, c'est Shrek ». Et donc les mômes me regardent genre « Mais qui est cette personne dont j'ai absolument rien à foutre ?» Et donc je leur fais « Mais oui, c'est moi Shrek ». Et donc ils ont un petit bug.
Depuis 20 ans, l'ogre le plus cool d'Hollywood n'en finit pas de dévorer le box-office mondial avec déjà plus de 3 milliards de dollars de recettes.
Et ça n'a absolument rien à voir. Le Festival Lumière va entamer une grande rétrospective. Jane Campion toute la semaine jusqu'à dimanche. Vous savez qu'évidemment c'est la néo-zélandaise qui avait remporté la Palme d'Or à Cannes en 93 pour la leçon de piano. Vraiment rien à voir avec Shrek.
Merci Florence Paracuelos et mille excuses de vous avoir appelé Laurence tout à l'heure. C'est bizarre.
Vous êtes pardonné Jean-Louis.
La météo avec Marie-Pierre Planchon.
La météo avec Euromaster. Toujours là pour entretenir les véhicules des pros. Suivi préventif, entretien sur site ou en centre, Euromaster est au service de votre mobilité et de votre sécurité.
Marie-Pierre, attention au brouillard.
Et oui, nombreux et denses, hein, Nicolas, sur la moitié nord, comme entre Brest et Troyes, où on n'a pas plus de 80 mètres de visibilité. Vers la Lorraine également, prudence, mais aussi vers Abbeville, Guéret, Auxerre, sans oublier le sud-ouest, de Bordeaux à Agen. Et à ces bandes brouillard s'ajoutent des nuages à cause d'une perturbation qui donne quelques gouttes sur la Normandie et vers la Lorraine, alors que les éclaircies commencent à revenir de la Bretagne à la Côte d'Opale. Et après la dissipation de ces brouillards, eh bien, ce sera plein soleil au sud de la Loire. Et comme hier, il gèle ce matin, hein, moins 2 à Bourdon, en Haute-Marne, Moisins, Colmar et Aurillac. Mais 13 à Paris, Quimper et 16 à Bastia.
Les retours du soleil sur le nord-ouest cet après-midi.
Oui, après la dissipation des grisailles, le temps sera de nouveau ensoleillé de la moitié ouest aux régions situées au sud de la Loire, avec le vent quand même qui se lève autour de la Méditerranée jusqu'en Corse. En revanche, du nord au nord-est, les éclaircies auront du mal à se former et il tombera encore quelques gouttes sur les Ardennes et la Lorraine. Le mercure sera assez bas, avec 14 à Saint-Étienne, 16 à Lille et à Cherbourg, à Strasbourg. Vous aurez 17 à La Motte-Beuvron ou à Paris ou à Lyon. Comptez 19 à Nantes, 21 à Bordeaux et Nice, 23 à Bastia et 25 à Perpignan.
Merci Marie-Pierre, à tout à l'heure. France Inter, 8h17.